Bonjour, je vous remercie d'être aussi nombreux pour cette séance. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Lapoujade pour son livre intitulé « Deleuze et les mouvements aberrants ». Alors, David Lapoujade a écrit des ouvrages sur James et sur Bergson. Il est l'éditeur des textes de Deleuze qui sont rassemblés sous le titre « L'île déserte et deux régimes de fous ». Et donc, il a fait paraître son livre que nous attendions sur Deleuze. Et je lui donne la parole avec grand plaisir.
Bonsoir. Donc, je vais présenter un peu ce livre, puisque c'est ce dont on avait convenu. Et je vais commencer par expliquer la raison de ce titre, un peu, qu'on pourrait dire un peu inattendu ou intrigant, que ce soit qu'il s'agisse d'ailleurs de gens connaisseurs de l'œuvre de Deleuze ou qu'il s'agisse de gens qui ignorent totalement son œuvre. Lorsqu'il s'agit de personnes qui connaissent l'œuvre de Deleuze, ils ne comprennent pas très bien au premier abord pourquoi je donne aux mouvements aberrants une place centrale, compte tenu du fait que les concepts autour desquels l'œuvre de Deleuze tourne sont plutôt ceux d'événements, de multiplicité, de désir, etc. Donc il y a un effet, si j'ose dire, un petit peu inattendu pour les lecteurs de Deleuze, familiers de la lecture de Deleuze. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Deleuze, l'effet aussi peut être intriguant, enfin du moins je l'espère, parce qu'on ne voit pas très bien en quoi une philosophie serait spécifiquement, essentiellement même, comment dire, concernée par ce qu'il appelle, assez tardivement dans son œuvre d'ailleurs, les mouvements aberrants. Donc, pour commencer et pour essayer de dissiper ou de renforcer cet effet d'étrangeté, je vais expliquer ce en quoi consistent les mouvements aberrants, ce qu'il entend, lui, par mouvements aberrants. D'une part, je voudrais relever le fait que, partout dans son œuvre, Deleuze s'attache à repérer des mouvements aberrants. Avant même que j'en donne une définition, je voudrais faire dresser un petit repérage de ces mouvements aberrants que Deleuze a cherchés partout. D'abord, il les a cherchés dans l'histoire de la philosophie parce qu'il s'est intéressé à des auteurs qui, d'une façon ou d'une autre, débordaient de la tradition classique, qu'il s'agisse de Lucrèce, qu'il s'agisse de Spinoza, qu'il s'agisse de Leibniz, du moins de la manière dont il le lit, ou de Nietzsche, ou de Hume, ce sont des philosophes qui, par un biais ou par un autre, échappent à une tradition idéaliste, spiritualiste, rationaliste, et Deleuze était très attaché à cette sorte d'histoire parallèle, un peu maudite, des auteurs que je viens de nommer. Donc ce serait déjà un premier motif. Ensuite, les œuvres littéraires auxquelles il s'intéresse, puisque la littérature est très présente dans son œuvre, on voit bien que ce qui lui importe, c'est la manière dont certains comportements peuvent se détraquer ou peuvent dévier de leur caractère ordinaire. Exemple, il s'est intéressé au Robinson pervers de Tournier dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Il s'est intéressé à la généalogie détraquée et mortifère des Rougon-Macquart. Il s'est intéressé au processus de la fêlure chez Fitzgerald. Il s'est intéressé évidemment à cette sorte de vision cosmologique qu'on rencontre aussi bien chez Miller que chez Lorenz. Voilà pour citer quelques exemples de ce qui l'attirait dans la littérature et de ce qu'il recherchait surtout dans la littérature, c'est-à-dire précisément des mouvements aberrants. On en dirait autant dans le cinéma où Deleuze s'intéresse principalement aux œuvres qui contestent ou qui reconstruisent la narration classique des œuvres telles que le cinéma d'avant-guerre a pu les construire. Mais on en trouverait aussi des exemples, évidemment, dans le champ de la psychanalyse ou avec Guattari, il joue les processus schizo, comme il les appelle, contre l'organisation œdipienne de l'inconscient telle qu'elle a été, selon eux, promue par le capitalisme et renforcée par la psychanalyse. On en trouverait encore des exemples dans Mille Plateaux, lorsqu'il s'attache à la dérive, au cours de l'histoire, à la dérive des ethnies nomades qui font tout leur possible pour échapper aux appareils d'État et au quadrillage des formations capitalistes. Donc, vous voyez, dans l'ensemble de l'œuvre, sans même parler dans la peinture de Francis Bacon qui soumet les corps et les visages à des torsions aberrantes, dans l'ensemble de l'œuvre, Deleuze est constamment à la recherche de ce qu'il peut y avoir de plus aberrant, proposant presque, avec Guattari, une sorte d'encyclopédie de ces mouvements. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est un mouvement aberrant ? Il me semble que la première caractéristique, une des premières caractéristiques, c'est que ce sont des mouvements inexplicables. Inexplicables du point de vue de ceux qui en sont les victimes, qui sont emportés par ces mouvements, qui n'obéissent à aucune raison énonçable. Un des exemples que donne Deleuze, je crois, si mon souvenir est bon, c'est dans une conférence adressée à la FEMIS, aux étudiants de cinéma de la FEMIS, et il prend l'exemple de ce personnage de Dostoïevski qui doit se rendre impérativement, il a de bonnes raisons pour le faire, à l'autre bout de la ville, et qui, en descendant les escaliers, croise sa gardienne, et qui, au lieu donc de saluer poliment la gardienne et de filer à son rendez-vous, s'arrête et commence à parler à la gardienne pendant un quart d'heure, une demi-heure. Évidemment, il est en train de manquer son rendez-vous à l'autre bout de la ville. Il ne sait pas pourquoi il parle à cette gardienne. Il se déteste de le faire, mais il ne peut pas faire autrement. Donc là, c'est typique de ce que Deleuze entend par mouvements aberrants, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument impératif, qui obéit donc à une nécessité, et qui pourtant est inexplicable. Voilà, disons, le double lien ou la double manière de saisir ce que peut être un mouvement aberrant pour Deleuze. Il faut que ce soit sans raison, sous un aspect, et que pourtant ça obéisse à une logique impérieuse sous un autre aspect. Si bien que, on voit ce qui se passe, c'est que Deleuze veut tenter, et c'est ce qu'il n'a pas cessé de faire, de produire des logiques non rationnelles. Les mouvements aberrants témoignent, pour Deleuze, de logiques non rationnelles. Il faut que ce soit logique, en même temps qu'il est impératif que ça cesse d'être rationnel. D'où ce couple, disons, qui traverse toute son œuvre, de mouvements aberrants d'un côté, que Deleuze ne cesse de décrire, comme je vous le disais tout à l'heure, et des logiques irrationnelles qui permettent d'en rendre compte. C'est particulièrement frappant, à titre d'exemple, là encore, lorsque Deleuze, dans Logique du sens, examine la question du sens, justement, et montre bien que le sens d'une proposition, ne peut consister ni dans un rapport de désignation avec ce qu'elle désigne, ni dans un rapport de manifestation avec ce que le sujet manifeste par la proposition, ni simplement dans un rapport de signification, c'est-à-dire dans le rapport que les concepts entretiennent entre eux. Il faut que le sens soit quelque chose qui soit irréductible à ces trois dimensions-là. Conclusion de Deleuze, évidemment je ne vais pas restituer toute la démonstration, conclusion de Deleuze, ce qui produit le sens, c'est le non-sens. Et celui qui l'a montré, de manière exemplaire, il n'est pas le seul, hein, Deleuze trouve des antécédents dans le Moyen-Âge, celui qui l'a montré, c'est Lewis Carroll. Et Lewis Carroll est celui qui, précisément, fait naître le sens, le pur sens, c'est-à-dire ce qui n'a que du sens, du non-sens. Seuls les non-sens de Lewis Carroll n'ont que du sens. Ils n'ont que du sens en ce sens que... il ne renvoie à rien qui peut être désigné, rien qui peut être manifesté par un sujet, et rien qui est de l'ordre de la signification. Donc vous voyez, il y a là l'idée que la logique productrice de sens renvoie à l'irrationalité du non-sens et des paradoxes des Lewis Carroll. Voilà, à titre d'exemple, disons, la manière dont Deleuze reconduit chaque fois ce qu'il doit expliquer ou ce dont il veut rendre compte vers une logique, et il est très important que ce soit une logique, sinon ça ne s'appellerait pas logique du sens, mais une logique qui n'obéisse plus au principe de raison, qui conteste même le principe de raison. Et ça m'amène à ce que j'ai cherché en fait dans ce livre, parce que les mouvements aberrants, ce sont plutôt comme des signes ou des symptômes, des manifestations, disons, de ce qui me semble être le problème central de la philosophie de Deleuze, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise de ses ouvrages et de son enseignement, c'est que toute philosophie procède d'un problème et qu'elle elle ne pense pas, disons, pour construire un système ou pour instaurer ou surmonter un dualisme ou je ne sais quel type de démarche théorique. Elle pense parce qu'un problème l'y contraint. Donc il fallait pour moi, fidèle si j'ose dire à cette méthode de problématisation, il fallait que je tente de remonter vers ce qui me semblait être le problème de la philosophie de Deleuze. Et la tâche était assez ardue dans la mesure où, pour ceux qui connaissent un peu son œuvre, c'est une œuvre assez disparate qui explore beaucoup de champs, cinéma, peinture, politique, histoire universelle, histoire de la philosophie, psychanalyse, sans compter son travail avec Guattari qui déplace un peu tout le système qu'il avait d'abord construit seul. Donc le repérage était difficile, hein, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre assez tard par rapport à la connaissance que j'ai de l'œuvre, c'est que c'était difficile d'essayer de trouver quel pouvait être le problème qui reliait, disons, tous les ouvrages de Deleuze depuis son premier jusqu'à ses derniers textes. Et il m'a semblé que le problème, justement, concernait ce que je viens de dire au sujet du principe de raison, à savoir, il doit exister ou il existe aux yeux de Deleuze, d'où le repérage, disons, de ces mouvements aberrants, il existe des modes d'existence, des manières d'être, des mouvements aberrants, donc pour reprendre ce terme, qui obéissent à une logique, mais qui contestent le principe de raison auquel est traditionnellement subordonnée la logique. Et il me semble que le problème de Deleuze, de ce point de vue, le problème qui l'anime tout au long de son œuvre, peut se formuler sous la forme suivante, même si ça paraît décevant au début, mais il faut préciser les choses. De quel droit ? Voilà. Le problème général de Deleuze, ce serait celui-là, qu'il ne cesse de répéter toujours et partout. De quel droit ? Alors évidemment, il va de soi que ce problème, on sait tous qu'on le rencontre déjà chez Kant. Deleuze le rencontre même pour la première fois chez Nietzsche, chez Platon. Au sens où il s'agit aussi bien pour Platon que pour Kant de se donner un fondement, de constituer un fondement en fonction duquel on distribuera la légitimité à telle ou telle faculté ou à tel ou tel type ou à telle ou telle classe d'individus en fonction du fondement. Donc on a là, si vous voulez, une sorte de grande distribution qui traverse toute la philosophie où on a d'abord un fondement qui possède éminemment ce que d'autres ne peuvent posséder que de manière secondaire ou dérivée, et c'est ce fondement qui va donner le droit à tel ou tel de s'exercer dans tel ou tel domaine. L'exemple que prend Deleuze, qui est classique, c'est celui du dialogue du politique de Platon, où on voit quantité de rivaux prétendre à pouvoir exercer la fonction du politique, c'est-à-dire de régner sur les hommes, hein, ou de s'occuper des hommes, et on voit défiler, disons, les prétendants, hein, et ne sera retenu comme légitime que celui qui obéira au modèle instauré par le mythe. Donc il y a là, si vous voulez, une exigence de légitimité auquel un fondement philosophique doit répondre. Ce que Deleuze justement va contester ou là où porte sa question, c'est de... La question pour lui se formule de la manière suivante. De quel droit l'instauration de ce droit? De quel droit ce droit? C'est-à-dire, on ne peut pas interrompre la question de quel droit sous prétexte qu'on aurait trouvé un fondement qui permet de distribuer le droit à celui à qui il revient légitimement. Donc, l'entreprise de Deleuze, de ce point de vue, consiste à contester tout fondement, à contester le principe de raison qui est précisément l'outil par lequel un fondement s'instaure dans l'histoire de la métaphysique, à contester, disons, ce lien entre le fondement, le principe de raison, comme mode de légitimation de ce qui existe, au profit, eh bien, de ce qui précisément, au profit de ce dont l'existence est contestée par le principe de raison, à savoir les mouvements aberrants. Les mouvements aberrants, c'est une autre manière de c'est une tentative de rendre légitime ce qui est dépourvu de légitimité du point de vue de la connaissance, du point de vue du droit, du point de vue de la justice, du point de vue d'un appareil d'État, du point de vue d'une organisation oedipienne, etc., etc. C'est-à-dire pour chaque domaine sur lequel Deleuze travaille, il cherche à savoir quelle est l'autorité qui occupe ce domaine, qui donc prétend distribuer le droit, hein, de savoir qui a le droit de parler et comment et quelles populations ont légitimement le droit de peupler, disons, d'occuper ce domaine. Et puis, une fois qu'il a établi cette figure centrale qui revendique une légitimité en fonction d'un principe de raison, Deleuze va tenter de voir s'il n'y a pas justement des failles, des fissures, des mouvements aberrants qui permettent de contester ce droit et de faire qu'on puisse poser la question de quel droit ce droit s'il ne rend pas raison de ce qui échappe à sa juridiction. Des mouvements aberrants qui échappent à sa juridiction. De quel droit le droit de l'appareil d'État s'il doit exclure les nomades qui les traversent, de quel droit le capitalisme peut-il s'étendre sur toute la Terre s'il ne cesse de créer des minorités, des sans-droits, d'exploiter comme il le fait, de quel droit se donne-t-il le droit de procéder comme il le fait? Voilà, c'est cette question que Deleuze agite en permanence, aussi bien au sein de l'histoire de la philosophie, hein, lorsqu'il s'efforce justement de renverser le platonisme, c'est-à-dire de quel droit le platonisme instaure-t-il le fondement en fonction duquel il se donne la légitimité de déterminer l'ordre cosmologique, éthique du monde. Et renverser le platonisme pour Deleuze, c'est un peu une opération analogue. Disons, il reprend une opération analogue à celle de Nietzsche, c'est-à-dire que si on renverse Platon, on les renverse tous, les uns après les autres, pour autant que se rejoue dans chaque philosophe de l'histoire de la philosophie quelque chose du platonisme, quelque chose, disons, d'une exigence morale perpétuée depuis le platonisme. Donc, renversement de la tradition platonicienne de la philosophie, contestation des légitimités que se donne le capitalisme, mais que se donne également la psychanalyse quand elle prétend dire que l'inconscient est structuré selon le triangle oedipien, contestation de la linguistique lorsqu'elle prétend rendre raison de l'agencement des images cinématographiques, contestation, qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore comme exemple, contestation de la logique ou de la dialectique kantienne quand elle prétend rendre raison du sens des énoncés, puisque c'est Lewis Carroll qui désormais va jouer ce rôle. Toutes sortes de contestations d'un droit que se constituent les philosophies ou les pensées qui opèrent selon un fondement ou selon une axiomatique au nom eh bien, d'une image, d'une nouvelle image de la pensée, c'est-à-dire d'une image de la pensée qui procède sans fondement hein, depuis ce que Deleuze appelle dans différents ses répétitions, et en partie dans Logique du sens, depuis ce qu'il appelle un sans fond, et ce qu'il appellera ensuite un plan. Alors pourquoi un sans fond ? Pour une raison simple, c'est que la question, l'exigence, disons, de la question de quel droit exige de remonter au-delà du fondement. Le fondement rend raison de toute chose, hein, et par là légitime ce qu'il produit, mais qu'est-ce qui rend raison du principe lui-même ? Cette démarche n'est pas nouvelle, je veux dire que ce n'est pas Deleuze qui l'invente, de mettre en cause le principe de raison compte tenu du fait qu'il ne peut pas rendre raison de lui-même. On la rencontre chez Heidegger, dans le principe de raison, justement, et où Heidegger montre bien que le principe de raison doit ouvrir sur un abîme ou ce qu'il appelle le sans-fond. On la trouverait également chez Bergson, où Bergson, au nom des exigences du principe de raison, est conduit à ouvrir, disons, la philosophie sur le sans-fond de la durée, hein, sur un océan dont on ne voit pas le fond. On en dirait autant de Nietzsche, qui n'a évidemment pas cessé de lutter contre la raison au profit, disons, des profondeurs abyssales du dionysiaque tel que Deleuze le lit. Ce qui veut dire, si on essaye de ressaisir, disons, cette exigence de produire une philosophie qui ne renonce pas à la question du fondement, ne pas renoncer à la question du fondement, maintenir cette question suppose de remonter du fondement vers un sans-fond et que la philosophie se redéploie à partir de ce sans-fond. Hein, c'est un peu, si vous voulez, le partage des eaux ou la dérive des continents du XXe siècle entre les philosophies qui renoncent à la question du fondement en disant cette question ne se pose plus compte tenu de la crise des fondements que les sciences ont traversée, si bien que notre activité consistera à examiner la validité des énoncés, hein, comme se le proposera la philosophie logique puis la philosophie analytique, c'est-à-dire une philosophie qui renonce à la prétention de poser la question du fondement parce que cette question a cessé de se poser. Et la philosophie deviendra une tentative d'élucidation intellectuelle ou conceptuelle des énoncés. Et puis, à l'opposé, la philosophie qu'on a appelée continentale, une exigence philosophique qui persiste à soutenir ou à maintenir la question du fondement, quitte à découvrir qu'il ne peut pas y avoir de fondement et que c'est à partir de cette absence de fondement qu'il faut redéployer la philosophie. Et Deleuze appartient, si vous voulez, à ce mouvement-là. Et ce qui caractérise, me semble-t-il, ce mouvement, quand je dis ce mouvement, ça comprend des auteurs aussi hétérogènes que Nietzsche, Bergson, Heidegger et Deleuze. Ce qui caractérise ce mouvement, c'est qu'ils tentent tous de penser ce que Deleuze appelle une nouvelle terre. C'est-à-dire que ce sans-fond, c'est pas l'abîme. Alors c'est l'abîme peut-être chez Heidegger, mais chez Bergson, chez Nietzsche et chez Deleuze, ce n'est pas un abîme. Et puis chez Heidegger, il faudrait voir en quoi ça peut être peut-être une nouvelle terre aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, chez Deleuze, c'est une nouvelle terre. Hein. La terre légère de Nietzsche, l'océan bergsonien, ce que Deleuze et Guattari appellent l'espace lisse de la déterritorialisation, ce qui est un peu difficile à expliquer en quelques mots. Mais l'idée, c'est que si le fondement était ce qui permettait de donner une assise, eh bien désormais on a une terre qui ne donne plus aucune assise et qui est une terre mouvante, hein, ou une terre mouvante ou un océan, ou une sorte de plan sur lequel doivent se déployer des populations, des êtres, des manières d'être qui échappent au principe de raison. Et c'est vrai pour les quatre auteurs en question, hein, c'est-à-dire tenter de penser des populations qui se dérobent au principe de raison et dont les logiques n'obéissent pas à une procédure rationnelle. Voilà, disons, ce qui me semble être le problème qui traverse la philosophie de Deleuze, c'est-à-dire poser la question de quel droit, de telle sorte qu'elle renverse le fondement qui est supposé rendre possible la distribution de droits. Donc c'est dans le fond une question, chez lui, extrêmement perverse, et délibérément perverse. Parce que Deleuze a, jusqu'à ce que le schizophrène devienne le héros, si j'ose dire, de la philosophie de Deleuze et Guattari, la grande figure philosophique pour Deleuze, jusqu'à Logique du sens, c'est le pervers. Le pervers comme celui qui obéit avec un zèle si grand à ce qu'on attend de lui, qu'il en finit par renverser la loi à laquelle il était supposé obéir. C'est ça, le pervers. Le pervers, c'est celui qui obéit à la loi avec tant de scrupules, tant de zèle, qu'au bout du compte, l'obéissance devient une contestation. C'est exactement ça. Vous voulez poser la question de quel droit ? Alors posons-la jusqu'au point où elle renverse ce qui permet d'instaurer un fondement qui va, à partir duquel le droit va se distribuer. Ou encore, ça fait partie des auteurs que j'ai oublié tout à l'heure, mais Deleuze a étudié Mazoche au même moment que Lacan qui étudiait Sade. Et Mazoche, pour Deleuze, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, la loi, en me punissant, et je demande à être puni, la loi, en me punissant, va me donner les plaisirs qui étaient supposés interdits par la loi. C'est par ma soumission et mon obéissance à la loi que je vais être puni et obtenir les plaisirs par la punition que la loi était supposée me refuser. Hein, c'est pour ça que Deleuze voit dans le modèle de Mazoche, enfin dans la littérature de Mazoche, hein, pas dans les comportements masochistes, mais dans les textes de Mazoche, un esprit juridique, justement. Hein, Mazoche est obsédé par la question des contrats à établir avec ses maîtresses. C'est dans à travers la question juridique, la question, c'est-à-dire quels sont les droits qui vont nous lier l'un à l'autre, c'est à travers la question juridique qu'il pervertit la loi, la loi comme fondement, et qu'il la renverse. Hein? Voilà, donc l'idée que la philosophie, dans ses exigences de fondation et de distribution des modes de légitimité, soit l'objet d'une perversion, est quelque chose qui restera constant chez Deleuze. Voilà, la construction d'ensemble. Hein, ce serait celle-là, ce serait se donner une nouvelle terre philosophique, mais pas seulement, avec de nouvelles populations. Alors quand je dis population, ça peut être des entités logiques, ça peut être des mouvements métaphysiques, ça peut être un nouvel usage des facultés, ça peut être évidemment des nouvelles populations picturales, musicales, politiques, de tous ordres. L'idée, c'est de faire droit, justement, de faire droit, c'est-à-dire de rendre légitime l'existence de toutes les populations dont l'existence était contestée ou minorée ou conjurée ou dénaturée par les exigences du principe de raison. Alors, on pourrait dire que, dans un premier moment de l'œuvre que Deleuze accomplit seul, c'est-à-dire, je pense principalement ici à Différence et répétition et Logique du sens, l'enjeu reste avant tout de nature théorique et concerne avant tout l'histoire de la philosophie. Et c'est avec Guattari que s'opère un renversement, ou un déplacement plus qu'un renversement, un déplacement tel que tout ce qui était l'objet, disons, comme l'a dit Deleuze d'ailleurs, d'une sorte de culture livresque, devient littéralement l'objet d'une philosophie pratique, hein, ou d'une pratique théorique, ou d'une théorie pratique, peu importe, d'abord avec l'anti-Oedipe, où Deleuze et Guattari déploient ces concepts de territorialité, territorialisation et déterritorialisation pour montrer comment les populations libidinales de l'inconscient n'obéissent pas d'abord à un schéma oedipien selon eux, mais se voient progressivement structurées par Oedipe, par une oedipianisation de la société qui culmine avec les formations, la formation du capitalisme. Et dans le fond, Deleuze et Guattari disent bien les psychanalystes ont raison de trouver Oedipe partout puisque les inconscients ont été oedipianisés. Donc, que les inconscients aient été oedipianisés, c'est un fait. Toute la question, à leurs yeux, c'est à nouveau la question de quel droit. Toute la question à leurs yeux, c'est cette oedipianisation de fait, cette universalité de fait de l'oedipianisation des inconscients, est-ce qu'on peut en faire l'image en droit de l'inconscient? Est-ce qu'on peut ériger Oedipe en figure universelle en droit de l'inconscient? Et vous voyez, donc la question reste kantienne en un sens, mais avec cette perversion essentielle qui consiste à poser la question de quel droit établissez-vous le droit selon lequel Oedipe serait universel et il faudrait du coup en dégager les effets de structure ou les modes d'application. Et ce qui leur importe de ce fait, en critiquant la triangulation oedipienne comme ils l'appellent, c'est de montrer que sous-jacent à la manière dont le triangle oedipien règne sur les populations, la majorité des populations libidinales de l'inconscient, sous-jacent donc à ce règne, eh bien, il y a ce qu'ils appellent des lignes de fuite ou des mouvements aberrants ou qui justement échappent à la juridiction oedipienne et ce qu'ils appellent des processus schizo. Ces processus schizo qui n'ont rien à voir avec la schizophrénie comme état clinique. Ces processus schizo sont précisément une manière, comme ils le disent, de se déterritorialiser ou d'être déterritorialisé, c'est-à-dire de quitter les territorialités oedipiennes. Donc on a bien là l'idée que si Oedipe est une sorte de territorialisation de l'inconscient sur les figures familiales, il y a toujours quelque chose qui échappe à ces territorialités et qui sont inséparables de ce qu'ils appellent des mouvements de déterritorialisation, lesquels sont à leur tour inséparables de mouvements de reterritorialisation, parce qu'on ne se déterritorialise pas sans se reterritorialiser. Ce mouvement donc qui déjà devient très pratique puisqu'il s'exerce au niveau de la cure, et qu'il implique pour Deleuze et Guattari de faire intervenir une analyse des sociétés primitives d'abord pour montrer que Oedipe est absent des sociétés primitives, n'est pas au fondement, disons, de la formation de l'inconscient des sociétés primitives. L'analyse ensuite de ce qu'ils appellent les barbares, parce qu'ils utilisent une terminologie du 19e siècle, barbares, sauvages, barbares, civilisés, donc de ce qu'ils appellent les barbares, c'est-à-dire les formations impériales despotiques, dans le fond, montre bien que là encore, Oedipe, la terre se prépare pour l'oedipianisation des inconscients, mais que l'âge barbare ne permet pas une oedipianisation telle qu'elle aura lieu avec les civilisés. Et puis enfin, l'analyse du capitalisme, et c'est là où il se rejoue, disons, quelque chose de ce qu'on a appelé à tort, dans le cadre de Deleuze et Guattari, une alliance de Freud et de Marx, ce qui n'est pas tout à fait vrai, vu à quel point Freud est l'objet de critique dans l'ouvrage, mais une analyse du capitalisme d'inspiration très marxiste, qui font que désormais, la philosophie pour Deleuze, telle qu'il la pratique avec Guattari, est inséparable d'une analyse du champ politique et social, beaucoup plus que ce n'était le cas auparavant, bien entendu. Et ce point culminera dans Mille plateaux, où on voit que l'ouvrage qui suit, donc qu'ils ont écrit ensemble, si je laisse de côté l'ouvrage sur Kafka, Mille plateaux est un ouvrage n'y a pas d'autre mot. Si on devait définir d'un mot le thème de cet ouvrage si foisonnant, hein, ces 600 pages qui en passent par tous les domaines possibles et imaginables, les mathématiques, la musique, les appareils d'État, Virginia Woolf, la biologie moléculaire, Boulez, les architectes, les ponts et chaussées, tout y passe, quoi. C'est vraiment une sorte d'encyclopédie désordonnée en apparence. Et la grande question, disons, qui anime Mille plateaux, c'est comment se fait l'occupation de la Terre ? Quelles sont les populations ? Et quand ils disent population, évidemment, ce n'est pas les individus, puisque les individus sont eux-mêmes des populations. Mais c'est les populations chimiques, biologiques, musicales, picturales. Tout est peuplement et population. Tout est multiplicité, disons. Ce qu'ils appellent multiplicité. Et toute multiplicité met en jeu au moins deux multiplicités. Donc ce sont des multiplicités de multiplicités. Et la grande question pour eux, c'est comment l'ensemble de ces multiplicités se distribue sur la Terre en fonction de quelles machines, de quels appareils. Qu'est-ce qui va faire que certaines populations vont se trouver prises dans un appareil d'État ? Que d'autres se trouvent prises dans des sociétés de type primitif, et que toutes se trouvent traversées par aujourd'hui par les forces du capitalisme, mais que certaines populations tentent d'y échapper par un biais ou par un autre. Et c'est cette sorte de géophilosophie, hein, comme ils la nommeront dans « Qu'est-ce que la philosophie ?», le dernier ouvrage qu'ils ont écrit ensemble, qui désormais les intéresse, c'est-à-dire une philosophie de la Terre et des diverses définitions et des divers usages qu'on peut faire de la Terre. La Terre entendue en un sens à la fois tout à fait concret et en un sens qu'on pourrait dire idéal, c'est-à-dire la Terre comme étant le sans-fond, si vous voulez, hein, c'est-à-dire ce qui est au-delà du fondement.
Bon, je vais arrêter cette discussion qui est passionnante, mais nous devons à un moment... Coupure. À un moment, il faut accepter cette coupure et cette séparation. Je veux vous indiquer qu'il n'y aura pas de séance en décembre parce que la séance de Bernard Sève a été déplacée au 4 février. Donc on se retrouvera le 4 février pour parler de l'instrument de musique. Et on se retrouvera de nouveau encore en février pour parler des transclasses avec Chantal Jacquet. Donc si vous avez été intéressé, eh bien regardez sur le site de MOLA les autres manifestations de la Société de philosophie de Bordeaux et nous serons bien entendu très contents de vous accueillir à nouveau pour écouter les auteurs parler des ouvrages et pour en discuter. Merci beaucoup.